Hey. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, révélé en Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu qui nous rassemble en ce jour pour vivre de sa parole de vérité et d'amour. Bienvenue à toutes et à tous présents en ce temple et sur les ondes. Sachez bien que, quelle que soit votre appartenance, vos croyances, eh bien, il est certain que vous êtes accueillis ici dans la joie et l'espérance. Pour vivre ce temps de culte, vous devez avoir les deux recueils de chants. La liturgie se trouve dans des livrets qui sont en première page du psautier français. Vous pourrez la suivre tranquillement. Et puis peut-être vous avez eu à l'entrée des feuilles où il y a un résumé de la prédication et deux ou trois textes qui seront dits dans la liturgie, en particulier le Notre Père, que j'ai réécrit et que donc on ne récitera pas dans sa version classique, tout simplement. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est pas un oubli de ma part, mais c'est tout à fait volontaire. Voilà, donc j'espère que vous avez tout ça en main et qu'il n'y a pas trop de problèmes et que ce culte se passera selon la volonté des uns et des autres et surtout dans la lumière de l'esprit. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant spontané, le psaume 134, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Père, nous te louons pour ta parole d'espérance et d'amour. Nous te louons pour Jésus-Christ et l'annonce de la bonne nouvelle. Nous te louons pour ce temps de partage qui nous unit toutes et tous dans la diversité et fait de nous un peuple rassemblé autour de toi et vivant de ton esprit. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 84 en entier.
Joyeux de te retrouver, il crie de l'humble service. Pour lui la source jaillira et l'eau du ciel arrosera dans la vallée la plus aride. Dieu guidera jusqu'à la fin. Au long des jours le pèlerin. Seigneur qui règne dans les cieux et nous écoute en ce lieu, et tous nous soit notre garde. À toi nos cœurs ne cachent rien quand tu regardes vers les tiens. À ton Messie d'abord regarde, vois son visage couronné. Vers lui notre espoir est tourné.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, vous le savez, portent en eux tout l'enseignement de la loi en particulier et de l'Écriture en général. Pourquoi j'ai envie de partager avec vous deux petits passages tirés du Deutéronome, donc de la Torah, de la loi. Tout d'abord au chapitre 24 et versets 17 à 22. Tu ne biaiseras pas le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras qu'en Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur, ton Dieu, t'a racheté de là, et c'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des épis dans le champ, tu ne reviendras pas en prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions. Si tu gaules tes oliviers, tu n'y reviendras pas faire la cueillette. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. Voilà, tôt dans l'histoire d'Israël, la Torah, la loi, s'est intéressée à ceux qui ont le plus besoin d'aide et de dignité, effectivement. Et je crois que c'est un grand progrès pour l'humanité que de pouvoir savoir que les Hébreux ont pu écrire des paroles comme celles que nous avons lues. Je pense en particulier à l'histoire du manteau qui revient souvent dans la Torah, hein, qui permet de protéger l'individu contre le froid en hiver, la chaleur en été et la nudité. Et le manteau, il est écrit dans la Torah, est inviolable. C'est-à-dire que la dignité de l'homme et le minimum doit toujours, toujours être préservé. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire quand on sait que ces textes ont été écrits il y a 2500 ou 2600 ans. Et voici donc ce que dit le Deutéronome un peu plus loin, au chapitre 30, les versets 14 et suivants. « Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas hors d'atteinte, il n'est pas au ciel, on dirait alors, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher, nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas non plus au-delà des mers. On dirait alors, mais qui va, pour nous, passer outre-mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu le mettes en pratique. Je vous invite à chanter notre chant de 193. Nous prions Dieu. Père, en ce dimanche, nous remettons nos vies entre tes mains. La distance que nous avons mise entre toi et nous semble toujours s'accroître et nous errons souvent comme des brebis sans berger. De temps à autre, quelques actions créatrices de vie éclairent nos vies. Nous te les remettons pour qu'elles grandissent sous ton regard. Mais combien de trahisons, de lâchetés, de violences, combien d'oublis, signes de nos égoïsmes et de nos faiblesses. Combien de gestes déplacés, de paroles blessantes, de médisances, qui sont là pour nous rappeler nos limites et la non-maîtrise de nos colères, de nos jalousies. Père, viens à notre aide, que nous puissions entendre le pardon qui libère et qui fait vivre selon ta volonté. Amen. À vous lever pour recevoir les paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde toute ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté son amour. La parole a été manifestée dans le monde en Jésus-Christ, afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance, ô que ces choses belles. Dans la reconnaissance et dans la joie, je vous invite à partager cette confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père. Il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort et il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde et son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit, présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée, recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Soir. Père, ton pardon nous donne la paix et la sérénité. Il nous permet de dire ton nom comme nous avons tenté de le faire, peut-être maladroitement. Mais surtout, il nous permet de te rencontrer et d'entendre ta parole. Oui, Père, le témoignage de ta parole, le témoignage des anciens est inscrit dans le livre. Ouvre nos cœurs à ce témoignage, à ces paroles. Ce sont des paroles de vie, d'espérance, même si parfois elles nous semblent obscures. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Je vous invite à entendre trois textes aujourd'hui. Le premier dans la Genèse, au chapitre 50, les derniers versets, versets 15 à la fin de la Genèse. C'est l'histoire de Joseph, qui, vous savez, a fait quelques bêtises, est un peu orgueilleux et a suscité la jalousie de ses frères qui l'ont vendu comme esclave aux Madianites. Or, Joseph, à la fin d'un long périple, se trouve être l'équivalent du grand vizir de l'Égypte, du premier ministre, si vous voulez, de l'Égypte de l'époque, donc un personnage extrêmement puissant, et voilà que les frères ont été obligés d'aller en Égypte, poussés par la sécheresse, par les intempéries, finalement, donc ils sont allés vers le Nil, là où l'eau coule tout le temps, finalement, et où la vie est possible. Alors, voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé. » Ils demandèrent à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph de grâce. Pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce. » Pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. » Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent eux-mêmes se jeter devant lui en disant « Nous voici tes esclaves. » Joseph leur répondit « Ne craignez pas, suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. » Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas, je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Et Joseph les réconforta et regagna leur confiance. Joseph habita en Égypte, lui et sa maison. Joseph vécut 110 ans et vit la troisième génération des fils d'Éphraïm. De plus, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu interviendra en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Puis Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël, « Lorsque Dieu interviendra en votre faveur, vous ferez remonter mes ossements d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un cercueil en Égypte. Dans l'évangile de Luc, maintenant, on fait un grand bond dans la Bible. La mort de Jésus. Jésus crucifié. Arrivé au lieu dit le crâne, là nous sommes en Luc 23, pardon, excusez-moi, les versets 33 et suivants, 33 à 38. Arrivé au lieu dit le crâne, ils crucifièrent Jésus ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder les chefs. Eux, ils ricanaient, ils disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre et dire, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « C'est le roi des Juifs. » Et enfin, un dernier passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 3 et suivants. Judas donc a livré Jésus, comme vous le savez, et il est pris de remords. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Alors il se retira en jetant l'argent de côté du sanctuaire et alla se pendre. Les grands prêtres prirent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, ce champ est appelé le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, c'est le prix de celui qui fut évalué et celui qu'on avait évalué, les fils d'Israël. Ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur l'avait ordonné. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. Et avant de revenir sur ces textes, je vous invite à prendre le cantique 213, Gloire à ton nom, en entier. Oui, gloire à ton nom, Seigneur, pour tous les dons que tu nous accordes et surtout pour ta présence qui nous éclaire et qui nous guide. Amen. La Bible, ça n'est pas vraiment un livre pour enfants de cœur. Pour la bonne raison qu'elle parle de l'humain à travers l'expérience du peuple hébreu et qu'on y retrouve l'expérience de vie de pratiquement tous les peuples de la terre. C'est dire que le sordide y côtoie le sublime. Et le sordide, il s'étale au fil des pages avec des mensonges, des crimes, des détournements d'héritage, des apostasies aussi, des viols, des guerres, des violences de toutes sortes. C'est ainsi. Et au regard de l'histoire, on s'aperçoit que ce que je viens de dire a une tendance à se répéter malheureusement assez fréquemment. De même que si on regarde l'actualité, on fait à peu près le même constat. Mais les Hébreux affirment aussi, et c'est bien là le sublime, le monothéisme. Ils le font très tôt. Le monothéisme est une découverte extraordinaire. Dans l'Antiquité, il y avait des multitudes de dieux. Tout venait de Dieu, absolument. D'un Dieu spécial pour la mer, un Dieu spécial pour le ciel, un Dieu spécial pour la guerre et que sais-je encore. Autant de cultes, autant de croyances et de superstitions. Et le monothéisme des Hébreux, des Juifs, de l'Antiquité, c'est comme ça qu'on appelle les Juifs, les Hébreux, bien le monothéisme des Hébreux a été une libération par rapport à toutes ces formes de culte qui étaient nombreux. Il est plus simple d'adorer qu'un seul Dieu plutôt que d'en adorer plusieurs. Ensuite, la découverte du monothéisme se fait par la proximité de ce Dieu, son accessibilité, qui fait que l'idolâtrie va être finalement mise à mal aussi. Grand moment de liberté, quelques 8 à 9 siècles avant notre ère, quand les Hébreux commencent à écrire. Et ils écrivent aussi la Torah, qui se trouve dans la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, comme ça qu'on appelle la Torah. Et c'est la loi. Cette loi dont nous avons lu un passage qui était inspiré par les grandes lois des grands pays alentours, en particulier la Mésopotamie ou les Hittites ou les codes ougaritiques, enfin bien d'autres puissances avaient des lois, bien évidemment, pour s'organiser. Mais la Torah va devenir un noyau de croyances important. Et puis aussi, par le passage que je vous ai lu du Deutéronome, cette prise en charge tout à fait formidable de toutes celles et tous ceux qui ont plus besoin d'être aidés. Une époque où il n'y a pas d'assurance sociale, de choses comme cela, comme nous avons aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, eh bien, il faut dire que lorsqu'on laissait glaner les gens, venir chercher les grappes de raisins qui n'ont pas été vendangées, etc., c'était permettre à ces gens qui n'avaient rien de pouvoir vivre. Et la condition des veuves, on le sait, était quelque chose de terrible dans l'Antiquité et dans bien d'autres civilisations d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien qu'en Inde, en Amérique du Nord, bien les veuves étaient condamnées à mort, carrément, condamnées à mourir exactement. Et puis les Hébreux ont eu ce coup de génie de saisir à travers Dieu qu'il y avait une promesse. Une promesse, c'est-à-dire qu'il y avait devant eux, quoi qu'il arrive, par cette promesse qui était dite par Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, qu'il y avait devant eux un avenir. Et donc, il y a une dynamique qui se crée là, à ce moment-là, et c'était tout à fait important. Présence de Dieu, fidélité, promesse, c'est la grâce qui s'exprime là, déjà, dans les premières pages de l'Écriture, finalement, et dans les premières pages de l'histoire du peuple hébreu. Alors, si le bien existe de cette manière, s'il est inscrit dans la Bible, comme il est inscrit dans la Torah, pourquoi le mal ? C'est une question qui est angoissante, finalement. Pourquoi le mal, alors que souvent, dans nos confessions de foi, pas celles que j'ai dites tout à l'heure, mais dans la confession de foi classique, type le symbole des apôtres, nous commençons en disant « Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père Tout-Puissant ». Qu'est-ce que ça signifie que cette toute-puissance, si le mal existe ? Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour supprimer le mal, la bêtise, la méchanceté, le viol des enfants, l'assassinat des gens, la torture, les guerres ? Dans les textes qui nous sont impartis aujourd'hui, que je vous ai lus, on peut se poser la question pourquoi Joseph, jeune, qui finalement ne manque de rien, est orgueilleux, comme il est orgueilleux. Il se pavane devant ses frères en leur disant « J'ai des visions qui me disent que vous allez me servir ». C'est ce qui va arriver d'ailleurs, mais n'empêche que les frères l'ont mal reçu. Et puis il se pavane devant eux aussi avec une tunique magnifique, Jacob, son père, lui a offerte, et rien aux autres. Alors effectivement, pour augmenter la jalousie, il n'y a rien de mieux. Je veux dire, Jacob, là, a fait fort. Pourquoi ? Jacob, affectivement parlant, est injuste vis-à-vis des frères de Joseph. Et pourquoi, quand même, malgré leur jalousie, ses frères vont-ils vendre Joseph comme esclave à des Madianites qui passaient par là, afin de s'en débarrasser et faire croire à leur père Joseph que, à leur père Jacob, pardon, que Joseph a été dévoré par un lion. Imaginez le chagrin, la peine de Jacob. Et puis dans le Nouveau Testament, autour de la mort de Jésus, pourquoi ces grimaces, ces ricanements, ces grincements de dents qui sont là dans la figure de ces soldatesques, de ces gens qui sont là, qui ricanent en voyant la souffrance de Jésus avec les moqueries? Pourquoi la dégradation de l'humain à ce point-là? Vous savez qu'on pendait les suppliciés nus dans des douleurs épouvantables, de paralysie des muscles respiratoires, entre autres. Pourquoi toutes ces tortures envers Jésus-Christ, qui est le juste, ces souffrances qui sont gratuites, car on aurait pu exécuter Jésus de bien d'autres manières, en évitant tout ce dont je viens de parler. Et pourquoi, au final, Judas trahit-il, enfin? Judas, c'est quand même le trésorier du groupe. Il y a un mystère dans tout cela. Mais surtout, ce qui frappe lorsqu'on lit ces textes, c'est où le mal est posé dans la Bible, comme cela, avec les frères de Joseph, dont je viens de vous dire un mot, et puis tous les gens qui sont autour de Jésus et qui ont conduit Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion. Pourquoi y a-t-il une intentionnalité du mal ? Et c'est bien ça le problème du mal, c'est que le mal, il est le mal quand il est voulu. Quand un adulte a envie de violer un enfant, on a le mal, parce qu'il sait pertinemment qu'il fait le mal, même si c'est une force qui le dépasse complètement. Je veux bien le croire, mais il n'empêche. Pourquoi quelqu'un va torturer quelqu'un volontairement, volontairement le faire souffrir, le détruire, le casser, pour peut-être arracher un aveu quelconque, enfin voilà. Et pourquoi dans notre histoire, les guerres, qui continuent tout le temps avec leur cortège d'horreur, de bêtises, envoyer des bombes sur des civils, nous le savons encore aujourd'hui dans l'actualité, mais ça dure depuis le début de la création. Je veux dire, Gaston Boutoul, qui a été le fondateur de la polémologie, c'est-à-dire la science de l'histoire de la guerre, eh bien, a signalé dans les années 60 qu'il n'y avait depuis l'histoire jamais eu d'année de paix sur la Terre. Il y a toujours eu quelque part un conflit. Comme s'il y avait une sorte de fatalité du mal, des gens qui en veulent aux autres, qui sont jaloux les uns des autres. Pourquoi le nazisme ? On s'en pose la question. Quand même, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse aussi dans un pays très civilisé, ultra civilisé, comme l'Allemagne. Pourquoi les racismes continuent ? Et ainsi de suite. On pourrait faire des listes comme cela. Le mystère est là. Alors c'est vrai qu'il y a des douleurs qui existent, qui sont dues à des maladresses, des échecs, des choses comme cela. Mais ça n'est pas le mal. C'est du mal, mais ça n'est pas le mal. Et je pense que lorsque l'apôtre Paul dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire », vous savez, il le dit dans l'Épître aux Romains, s'il ne me trompe, bien, il ne parle pas du mal. Parce que je ne pense pas que l'apôtre Paul ait voulu faire du mal, mais dans son ministère, mais qu'il ait fait le mal, qu'il ait fait des gaffes, des choses comme ça, ça nous arrive à tous, évidemment. Alors, on peut essayer d'éclaircir le mystère et d'arrondir les angles. La jalousie, oui, oui, la jalousie. Bon, c'est une faiblesse qui est liée, finalement, au paraître, au désir, à la frustration, à la recherche de puissance. On peut chercher des explications comme cela, surtout lorsqu'il est exacerbé, comme je l'ai dit. Et puis, Judas, quant à lui, c'est une figure complexe. C'est une figure complexe qu'on a voulu réhabiliter il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais plus, ça, le temps passe vite. Et Judas, c'est quand même un très, très proche de Jésus. Il est trésorier. Trésorier du groupe, c'est ce que disent les évangiles. On ne confie pas son argent à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que, bon. Et j'espère qu'à l'oratoire du Louvre, vous avez confiance en votre trésorière, hein, évidemment. C'est quand même la moindre des choses. Bon, enfin, voilà. Mais ce Judas qui est tout proche de Jésus, incontestablement, il apparaît comme voleur, menteur, il est rusé, il est traître et il est vénal. Vénal et vénal pour peu de choses. Pour 30 deniers, il va vendre son maître. Alors ça fait écho à la prophétie de Jérémie. Et puis 30 deniers, c'est le prix d'un esclave. C'est aussi très symbolique, évidemment. Ça va de soi. Mais peu importe. On signifie par là que cette traîtrise a été faite pour si peu de choses. Quel est ce mystère qui est là? Est-ce que Judas est un déçu politique, voyant en Jésus un social traître, comme on dirait maintenant? Peut-être qu'après l'entrée de Jésus à Jérusalem, tel un roi davidique, veut-il précipiter les choses en créant un événement fasse que, par un incident, eh bien, Jésus prenne le pouvoir plus vite que prévu. Mais tout ça lui échappe. On a même pensé, certains théologiens, qu'il faisait partie du plan de Dieu. Pas de Judas, pas de prêtre, pas de trahison, pas d'arrestation, pas de passion, pas de mort et de résurrection. Je laisse de côté ces théologiens parce que je ne pense pas qu'on puisse confesser un Dieu d'amour qui envoie son propre fils à la crucifixion. Mais enfin, c'est une autre question. Dans tous les cas, autour de Jésus, le mal est une sorte d'absolu. Il y a peut-être des intérêts politiques, je veux bien le croire. Il faut bien que l'un meure pour sauver la population, dira Caïphe et Pilate, s'en lave les mains, il veut la tranquillité. Mais au final, même si on remonte des effets à la cause et ainsi de suite, jusqu'à une cause première, on reste face à une béance. Pourquoi le mal? Pourquoi ce mal qui nous obsède finalement? Le livre de Job qui traite de cette question dans la Bible où l'Ecclésiaste ne solutionne pas la question et nous restons avec des points de suspension. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les conséquences sont accablantes. Les souffrances sont là, des plaies ouvertes, des décès de gens qu'on aime et qui disparaissent, qu'on ne verra plus jamais, des destructions. Et puis, pour tous ceux qui survivent à cela, il y a des rancunes, des désirs de vengeance d'un côté, bien souvent, et des peurs et des remords de l'autre côté. C'est la porte ouverte aux violences, aux vendettas. Le mal crée des ruptures. Il casse les communications entre les hommes, finalement. Et ici, le péché, qui par définition, la rupture qu'il y a entre les hommes et Dieu, prend tout son sens et toute sa dimension par les ruptures qu'il y a entre les hommes entre eux. Comment un Dieu d'amour peut-il supporter ces ruptures? Certes, la conscience, qui est le signe de l'humain, est là, qui peut nous arrondir les angles, si je puis dire. Mais dans tous les cas, cette conscience n'exclut pas la peur, évidemment, n'exclut pas le remords qui est là et la culpabilité, bien sûr, face à une faute très très grave. La question est là, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait vraiment? Hein? Comment réparer des dégâts, des ruines, des morts, des vies gâchées, des cassures et des ruptures? Comment réparer des problèmes psychologiques qui vont être portés dans le silence par des gens blessés, et ainsi de suite? Le remords, il est là et il saute à la gorge. Il est une angoisse, finalement. Il est angoisse, il étouffe, il empêche de dormir, il isole les personnes. Alors, le problème a été posé dans la Bible. Caïn, qui a tué son frère Abel, ou Moïse, qui a tué l'Égyptien, ou David, qui a fait assassiner le mari de Bethsabée, dont il avait envie, véritablement, manière de se débarrasser d'un concurrent, évidemment. Mais dans tous les cas, on a là affaire à des criminels, mais ils sont là, mangés quand même par le remords, à un moment donné, par la culpabilité qu'il va les poursuivre d'une manière ou d'une autre, et que Dieu va leur rappeler. La conscience est là. Comment sortir de cette angoisse qui taraude l'individu, qui l'empêche de vivre? Comment rétablir une situation? Judas, il va essayer. Il va revenir en arrière avec ses 30 deniers qu'il va rendre finalement, mais il est renvoyé et il est seul. Parce que le mal isole complètement, même si en façade il peut y avoir des rafistolages, mais ça n'est que ruine et solitude. Et désespéré face à la monstruosité de cette trahison et de ses conséquences, il ne peut s'échapper de cet enfer que par la mort et par le suicide. En fait, la question est de savoir si l'homme seul peut rétablir la situation compromise par le mal. Judas n'y arrive pas, on vient de le voir. Caïn, David, Moïse et les autres qui sont dans ce cas-là n'y arrivent pas non plus. Il leur faut l'aide de Dieu. Les prophètes sont là pour rappeler à ces hommes « qu'est-ce que vous avez fait ?» Lorsque David fait assassiner Uri au cours d'un combat, Nathan est là pour dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui raconte une fable pour que David prenne conscience de ce qu'il a fait. Et ça fait mal, évidemment. Il faut l'aide de Dieu pour mettre les choses en place et dépasser le monde, le mal, l'effacer en partie et recevoir le pardon. Le pardon n'est pas toujours facile parce qu'il faut le repentir. Il faut avoir la conscience du mal que l'on a fait. Et là, c'est pas facile à entendre, à réaliser. C'est une douleur aussi de réaliser ce qu'on a pu faire de mal. Et puis, il faut de l'humilité, ce qui n'est pas donné d'avance. Mais c'est difficile. Et la Bible l'illustre à sa manière. Lorsque David met sa confiance dans un recensement, dans la force de ses armées, dans sa toute-puissance, et que donc il a tendance à oublier Dieu qui le protège et qui le guide depuis le début, eh bien, Dieu lui fait prendre conscience de cette énormité et lui dit « Maintenant, il va falloir choisir pour revenir en arrière, remettre les choses au point, choisir entre le fait de tomber entre tes ennemis ou la peste à Jérusalem. » Et David choisit la peste à Jérusalem. C'est un des derniers épisodes de la vie de David, finalement. Et puis, finalement, cette peste sera moins importante que ce qu'elle aurait dû être par la grâce de Dieu. Accorder le pardon à l'offenseur aussi, c'est pas évident. Pas évident de le recevoir, mais c'est pas évident de le donner. Ça semble impossible de pardonner véritablement. J'ai lu récemment, il y a quelques mois, un livre du philosophe juif Yankelevitch, dont pratiquement toute la famille a été exterminée pendant la dernière guerre mondiale, et il dit clairement qu'il peut pas pardonner. Pas qu'il en veuille véritablement aux Allemands, évidemment, mais il ne peut pas pardonner. Ça lui est impossible. Sans doute que les visages de tous ces gens disparus sont là dans sa mémoire et lui rappellent les souffrances, évidemment. Pardon, là, pas possible. L'impardonnable n'est pas pardonnable par définition. Mais dans un autre ordre d'idée complètement différent, Jean-Jacques Sempé, vous savez, qui dessine ces petits bonshommes, vous savez, qui est un dessinateur qui est décédé il y a quelques mois, un dessin comme ça, on voit un petit bonhomme avec le sourcil broussailleux, l'air solennel, qui dit « Je leur pardonne à tous ». mais je garde les noms et adresses. C'est bien le signe que si on pardonne facilement au niveau du vocabulaire, dans les faits, c'est pas si simple que ça, finalement. Et je pense que Yankelevitch, avec son sérieux, et Jean-Jacques Sempé, avec son humour, ont l'un et l'autre raison. Il reste toujours des cicatrices. Des cicatrices qui font mal, incontestablement, lorsqu'on subit un choc, lorsqu'on subit un mal important, un décès d'un enfant, d'un conjoint, d'amis, que sais-je encore, quand on voit des civilisations qui sont rasées, qui s'effondrent, que sais-je encore, même si on passe l'éponge, même si on cherche à expliquer le geste pour, bon, voilà, effectivement, voilà, c'est difficile. Et je crois qu'à ce titre-là, ce qui peut nous venir vraiment en aide, ce sont ces deux récits que je vous ai lus, celui de Joseph et celui de Jésus. Ils me semblent tout à fait essentiels, ils sont éclairants. Face à leurs tourmenteurs, ni Joseph, ni Jésus pardonnent. On a toujours l'impression que Jésus pardonne, comme ça, mais Jésus ne pardonne pas. Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Il ne dit pas « Je pardonne à tous ». Père, pardonne-leur. Il renvoie au Père. Quant à Joseph, il dit « Qui suis-je, moi ? Dieu juge. » Pas moi. Et Joseph ne pardonne pas à ses frères. Joseph leur dit pas « Je vous pardonne, pas de problème. » Et là, Joseph et Jésus sont terriblement humains. Si on cherche une preuve de l'humanité du Christ, je pense que cette parole sur la croix est une parole terriblement humaine. Elle est de notre côté. Jésus est bien plongé à ce niveau-là, dans l'ultime, dans pratiquement la mort, et plongé dans l'humain. Il est de notre côté, véritablement. Et c'est peut-être pour ça qu'il intercède auprès du Père. Jésus est l'avocat. Il ne pardonne pas, mais il est l'avocat. Mais c'est Dieu qui va juger, qui va pardonner. Mais il est l'avocat, le fameux paraclet dont parle l'évangile de Jean. Quant à Joseph, il a cette parole sublime, extraordinaire, « Du mal que vous m'avez fait, Dieu a fait du bien ». Quand même assez génial, une parole fabuleuse quand même, tout à fait à la fin de la Genèse. « Du mal que vous m'avez fait, Dieu a fait du bien ». C'est-à-dire qu'il va faire repartir les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Joseph va installer ses frères en Égypte. Ils vont grandir, former tout un peuple, et puis ce sera l'aventure de l'Exode, etc., et la suite. Tout à fait extraordinaire que de voir qu'à partir du mal subi par Joseph, tac, ça repart. Un peuple né, il y a une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Et de la mort de Jésus, il y a la résurrection. Une nouvelle aventure aussi, quelque chose d'extraordinaire qui nous concerne finalement et qui nous replace devant les souffrances que nous pouvons avoir. Car en Dieu qui juge et un Dieu qui pardonne finalement, eh bien, nous avons la certitude par l'Écriture que si les dégâts ne peuvent pas être réparés, c'est pas possible. Dire, hein. Il n'empêche que le mal et les souffrances peuvent être dépassés pour propulser les individus, les hommes, les femmes de toutes sortes, de toute appartenance, quoi qu'ils aient fait, pour les propulser vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle naissance. Et c'est ça qui est tout à fait formidable dans ce livre de la Bible. Le pardon de Dieu qui est là, finalement, et qui est attesté par ces nouveaux départs, ces nouvelles naissances, par la résurrection. Le pardon de Dieu, finalement, n'est pas lié aux contingences, comme notre pardon humain, finalement. Dire, et je crois que c'est intéressant, parce que, n'étant pas lié aux contingences, il est absolu, indépassable. Et on peut dire effectivement que Judas, qui s'est pendu, qui a trahi, qui a vendu Jésus, est au bénéfice du pardon de Dieu. Je ne serais pas pasteur si je ne pouvais pas dire ça. Je pense que la pire des horreurs, que vous pouvez imaginer aujourd'hui, prenez-la dans votre vie, dans l'actualité, ça m'est égal, mais la pire des personnes est au bénéfice du pardon divin, du jugement, certes, de Dieu, mais aussi du pardon. Sinon, on ne peut pas dire que Dieu est amour. Le pardon que nous manions, que nous accordons, est lié aux contingences, aux limites. On garde les noms et les adresses, comme dit Sempé, comme écrit Sempé et dessine. Il y a toujours ça. Pas le pardon de Dieu. Pardon de Dieu, c'est autre chose. Il n'est pas lié aux contingences. Il y a les souffrances qui sont là, les souffrances de Dieu. Mais tout ça est dépassé par un pardon qui est plénitude, gratuité, universalité. Le pardon de Dieu est ainsi, parce qu'il est le signe même de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu n'est pas l'amour humain non plus. L'amour humain, c'est l'éros. Les philosophes, dès l'Antiquité, ont écrit des pages sublimes sur l'amour. Mais il est quand même lié aux contingences. Il est lié, l'éros est lié au désir, il est lié au manque. On cherche ce qui se manque, la partie de soi-même qui fera de nous un être complet, finalement. C'est la problématique de base. Il n'y a rien de cela dans l'amour de Dieu. Et les chrétiens l'ont bien compris quand ils ont écrit le Nouveau Testament, lors du premier siècle. Chaque fois que dans le Nouveau Testament, dans vos traductions, vous lisez « amour » ou « charité », selon les traductions, eh bien, en grec, c'est toujours « agapé » qui est là. Ils se sont saisis de ce concept-là pour définir l'amour de Dieu, c'est-à-dire un amour absolu, éternel, gratuit, qui est promesse du royaume, vraiment, qui est illogique. C'est pourquoi Paul, face à cette absurdité qui nous dépasse, dira qu'il est folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu, finalement. Je paraphrase Paul dans l'Épître aux Romains. Il est promesse du royaume, c'est un fait extraordinaire. Et là aussi, il remet les choses en place, en ordre de marche. Il dit, regardez, devant, il y a une route qui s'ouvre, une perspective qui est là, une libération qui est là, une liberté de Dieu qui s'exprime et qui accorde le pardon librement à tout un chacun, à qui il veut, même à ceux qu'on ne peut pas reconnaître à vue humaine. Je veux dire, il est là comme une dynamique, et une dynamique créatrice, un appel extraordinaire à la vie. Le pardon de Dieu, qui est le signe de l'amour de Dieu, ça porte un nom, c'est la grâce. Et c'est pour ça qu'à chaque culte, nous commençons par cette phrase, la grâce et la paix, nous sont, je dis nous parce que je m'inclus dedans, hein. Je dis pas vous, hein. Pas de raison que je m'exclue quand même de la grâce. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu. La grâce est là. Cet essentiel qui fait vivre, qui nous permet de dépasser toutes les souffrances et qui nous conduit à la vie. À la vie, au recommencement, finalement, à la nouvelle naissance. Quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, dans cette affaire, ne nous apparaît pas, comme disaient autrefois certains théologiens, comme le tout autre, mais comme le tout proche. Certes, qui nous surprend. C'est peut-être pour ça qu'on peut le trouver tout autre. Il nous surprend parce qu'il a des paroles de paix, du shalom, de la plénitude, la grâce et la paix. C'est pourquoi j'ai écrit à la fin de cette prédication, si le remords et le mal sont l'enfer, la grâce, c'est le salut et notre libération. Pour vivre de l'esprit et aller sur des chemins d'espérance, au final, le signe de la grâce, c'est la vie. C'est la vie en plénitude, dans la joie, dans l'espérance. C'est ce que dit finalement l'Ancien Testament autour de Joseph et de bien des histoires de la Première Alliance. Mais c'est surtout l'annonce pour tout un chacun du royaume et de l'éternité, de la vie éternelle avec Jésus-Christ mort et ressuscité. Frères et sœurs, présents ici, et vous toutes et tous qui écoutez sur les ondes, eh bien, allez en paix. Que la grâce et la paix vous éclairent. Amen. Merci Sarakim pour cet accompagnement. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 390, consacre à ton service les quatre strophes. Sarah, à mon avis, c'est le 390, hein, c'est consacre à ton service, c'est pas le bon air. Pourtant, j'ai une oreille musicale qui est très déficiente. Hein. C'est bon.
Bonjour à tous, une petite séance d'annonce. D'abord, merci au pasteur Rubac d'avoir rempli la place qui aurait dû être celle de nos pasteurs, mais elles sont toutes les deux ce week-end au synode régional, et donc elles ne pouvaient pas être là. Avant cette semaine, il y a cet après-midi un concert ici à l'oratoire à 15h30, autour de Vivaldi, et en particulier de ces deux morceaux célèbres que sont le Magnificat et le Gloria. Le concert sera donné par le chœur de garçons de l'Académie musicale de Liesse, dans la Sarthe, et l'Orchestre français d'oratorio. Cette semaine, les activités sont assez réduites. Il y a ce jeudi 17 novembre, comme d'habitude tous les jeudis, la pause spirituelle, de 12h30 à 13h30 au temple par la pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Et compte tenu de ce programme relativement réduit, j'en profite pour vous annoncer deux dates à retenir. D'abord, le week-end dans 15 jours, le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, la vente annuelle de l'oratoire. Ça sera la 75e vente de l'oratoire. Il y a de très grandes chances que ce soit la dernière vente de l'oratoire. Donc je vous invite à venir nombreux. Elle est placée cette année sous le sigle soutien et convivialité. Donc venez nombreux pour ce moment de convivialité qui est un moment important pour la vie de la paroisse. Si vous voulez en savoir plus sur la vente de l'oratoire, il y a un article qui est sur le site de notre église qui a été écrit au moment de la 60e vente de l'oratoire en 2006. Donc c'est dans la feuille rose du quatrième trimestre 2006. Une autre date à retenir dès à présent, c'est le jeudi 15 décembre pour un concert du chœur de l'oratoire du Louvre avec sous la direction d'Alexandre Korovitch, avec au piano Sarah Kim et avec le quatuor de cordes de cuivre, le quatuor de cuivre Blazer. Oui, Blazer, c'est forcément du cuivre, ça peut pas être des cordes. C'est un conte musical dont le titre est Quand je serai grande, je serai heureuse, et qui a été écrit par Alexandre Korovitch lui-même. Voilà, bonne semaine, bon dimanche encore et bonne semaine à tous.
Tu veux que j'annonce l'offrande?
Ah oui, ce serait une bonne idée.
Tu veux que je le fasse? J'ai une mauvaise nouvelle. Tout ce que vous allez donner, vous allez le perdre. Voilà. Vous savez, il faut le savoir, on est quand même la seule association où on peut dire une chose pareille. Tout ce que vous allez donner, vous allez le perdre, c'est pour les autres. Voilà. C'est pour entendre que le pardon couvre toute notre vie et nous fait vivre, comme j'essaie de vous le faire saisir. C'est pour savoir que s'il y a quelqu'un qui est dans la grande difficulté, une veuve, un orphelin, un émigré, un SDF, je ne sais pas très bien, eh bien, une partie de ses finances sont là pour aider ces gens-là. L'argent que vous allez donner, que vous allez perdre, il sera récupéré pour les louveteaux, les éclaireurs, car je crois qu'ils sont en face. Je ne vais pas dire de bêtises. Quand j'étais au café tout à l'heure, je les ai vus passer dans la rue. Vous voyez, hein? Donc il y a un tas de choses comme ça qui sont intéressantes. C'est pour ça que le don gratuit est vraiment quelque chose de sublime et d'intéressant. C'est pour ça qu'il est marqué, lui aussi, du sceau de la grâce. Alors vivez ce moment privilégié de gratuité et de générosité comme il doit l'être, c'est-à-dire dans l'esprit. Amen. On y va ? Nous prions Dieu. Père, toi qui nous accueilles avec une tendresse maternelle, nous remettons nos vies, nos joies, nos peines et nos faiblesses entre tes mains bienveillantes. Voici ce monde qui nous oppresse et nous questionne avec ses injustices, ses violences et ses guerres. Voici nos idéaux souvent bafoués et nos espoirs déçus, ainsi la justice, l'amour et la paix si souvent foulés aux pieds. Voici des voisins, des parents, des amis, tous ceux ici présents et les autres aussi loin soient-ils. Seigneur, sois avec ce monde, avec ses grandes espérances et avec toutes celles et tous ceux que nous te présentons. Voici une nouvelle naissance, une fête, un mariage, un projet de paix et un projet de vie. Seigneur, bénis la vie quand elle s'exprime ainsi. Voici nos communautés ecclésiales, qu'elles soient fidèles à ta parole, au message de Jésus-Christ si important pour ce monde. Et nous pensons tout particulièrement aujourd'hui à l'Église protestante unie de France, réunie en synode. Père, toutes nos pensées, nos prières se réunissent dans cette prière. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est au-dessus de tous les noms. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations du mal et de la mort. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, c'est-à-dire recevez une parole positive, béni l'itchéré. Car parole positive prononcée par Dieu, il y a pour chacune et chacun d'entre vous, quelles que soient vos situations, vos vies. Cette parole s'exprime dans la grâce, bien sûr, dans la présence ineffable de l'invisible, de l'esprit. Oui, allez en paix. Allez en paix avec cette bénédiction, cette certitude de l'amour de Dieu qui est inscrit au cœur de vos vies. Allez en paix, car le monde a besoin de vous, de vos témoignages, de vos vies. Allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous et vous garde. Maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, et peut-être un dimanche prochain, je serai dans vos rangs, tout simplement à votre place. Voilà, et peut-être au jour de la vente, et je vous rappelle que si ce jour-là, vous n'avez pas grand-chose à acheter, parce que vous n'avez rien trouvé, il reste toujours des gâteaux qui sont toujours très bons, et des tables où vous pourrez rencontrer des amis. Qu'on se le dise. Allez, bonne semaine.